Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la JT du local pour une nouvelle semaine d'émission autour de l'actualité mayonnaise. Je suis ravie de vous accueillir pour cette émission du lundi 21 février. Évidemment, je ne suis pas seule à l'animer. Salut Andy, comment ça va ?
Salut Marie, ça va très bien. Nouvelle semaine qui débute. Et toi, comment ça va ?
Eh ben très bien, parfait, pareil, en tout cas parfait, je ne sais pas, mais en tout cas pareil. Je suis très contente de commencer cette semaine avec vous. Et on va parler aussi, encore une bonne nouvelle là aussi, le retour des concerts debout et des concerts d'ailleurs tout court au 6 par 4 à Laval, avec une date prévue dimanche et un mois de mars bien rempli, vous allez l'entendre. On va parler aussi cinéma aujourd'hui avec le Festival du cinéma italien de Nantes qui se délocalise à Château-Gontier, avec un film notamment sur la mafia calabraise et un deuxième sur la famille et le handicap. Et puis on va retrouver aussi en fin d'émission la première chronique de la Ligue des droits de l'homme 53, qui va justement un peu se présenter et parler plus spécifiquement du problème de la concentration des médias. Et on retrouvera aussi, là aussi plutôt en fin d'émission, le premier épisode de notre série auprès du parcours ado avec le Théâtre de Laval. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité avec des habitants d'Arquenay toujours privés de courant depuis cette nuit.
À cause d'un accident de poids lourd survenu vers 3h30 du matin, le camion qui transportait des produits d'épicerie s'est couché seul sur la chaussée sur un poteau EDF. 5 foyers sont toujours privés d'électricité. Le conducteur du poids lourd, âgé de 19 ans, a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Laval. Une déviation a été mise en place sur la D20 le temps que le camion soit relevé.
Et la rentrée des élèves depuis ce matin s'est faite sans masque à l'extérieur.
Allègement du protocole annoncé il y a 10 jours par Jean-Michel Blanquer, qui passe du niveau 3 au niveau 2. Concrètement, le port du masque reste obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans en intérieur, mais plus dans les cours de récréation. Pour un élève cas contact, un seul autotest à J+2 suffit et plus besoin d'attestation sur l'honneur des parents.
Et si vous avez besoin d'un test Covid sans rendez-vous cette semaine ?
Eh bien, vous pouvez aller aujourd'hui à Mayenne et Évron, demain à Saint-Pierre-la-Cour et Château-Gontier, mercredi à Mayenne et Changé, jeudi à Château-Gontier et Ernée, et vendredi à Saint-Berthevin.
L'affaire du GHB à la Chamade, finalement classée sans suite.
Aucune trace de GHB n'a été retrouvée chez les 3 femmes qui avaient affirmé aux gendarmes avoir été droguées. Selon elles, les faits remonteraient à la nuit du 13 novembre 2021 à la discothèque La Chamade à Entrammes. Le parquet de Laval a donc classé l'affaire sans suite.
Du suspense jusqu'au bout pour l'étoile lavalloise futsal.
Qui a battu le leader de D1, le Sporting Paris, 6 buts à 5, samedi après-midi à l'espace Mayenne de Laval. Une belle performance complètement inattendue puisque les Mayennais étaient menés de 3 buts à la pause, le tout dans une salle à guichet fermé et avec un nouveau COP de supporters qui cherche encore son nom. Vous pouvez donner vos idées sur le groupe Facebook Le COP de l'étoile lavalloise.
Les Tangos, de leur côté, n'ont ramené qu'un match nul d'Avranches.
0 partout, malgré toutes les occasions pendant le match, le Stade Lavallois n'a pas réussi à faire la différence et leur série de victoires s'arrête là. Ils perdent donc leur première place au profit de Concarneau, qui a un meilleur goal à virage. Leur prochain match aura lieu dimanche chez nos voisins du Mans pour essayer de renouer avec la victoire.
Et là, on parle basket avec les Sud-Mayonnaises et leur aventure s'arrête en 8e de finale de Coupe de France.
Après une victoire samedi en 16e de finale face à Sotteville-Barentin, les U18 d'Usson Mayenne Basket se sont logiquement inclinés hier contre l'équipe U18 de National Elite de Mondeville sur le lourd score de 152 à 33. Le match s'est déroulé à la salle Jean Bouin à Angers.
Et oui, on vous en avait parlé d'ailleurs dans la chronique sport de la semaine dernière. Et puis c'est donc le retour des concerts au 6 par 4 à Laval. La salle de musiques actuelle peut à nouveau accueillir des concerts debout depuis mercredi dernier, après 2 mois de trêve. Et même si les concerts assis étaient autorisés pendant cette période, les 2 dates prévues au mois de janvier ont été reportées, car les styles musicaux ne s'y prêtaient pas et le 6 par 4 se serait privé de 2/3 de sa jauge. Alors la prochaine date, dimanche, est attendue avec impatience par Anaïs Garnier, chargée de communication du 6 par 4.
Ça fait du bien de pouvoir se dire qu'enfin on va pouvoir reprendre les concerts en debout, avec un bar ouvert. On a hâte en tout cas de retrouver le public dans ces conditions-là. Alors au mois de janvier, il n'y avait pas du coup de concert à proprement parler, mais il y a eu tout ce qui était accompagnement local. Donc nous, en fait, il faut savoir qu'on accueille des résidences au 6 par 4. Donc il y a des groupes qui viennent s'entraîner, préparer les shows justement pour la reprise des concerts. Donc on a pu en accueillir plusieurs au 6 par 4. Et sur le mois de février, on organise un festival jeune public qui s'appelle Monte dans le bus et qui donc, lui, a pu avoir lieu en format assis, en fait, puisque c'est des spectacles qui sont à destination du jeune public et qui étaient déjà prévus de toute manière en format assis. Donc on était super heureux de pouvoir maintenir ce festival et qui a été une belle réussite d'ailleurs, puisque sur les 10 spectacles, il y a eu 8 séances qui ont été complètes. Le 27 février, du coup, ce sera un dimanche. Donc c'est le retour des Sunday Shining, c'est les concerts en fait d'après-midi le dimanche au 6x4. Donc là c'est Emma Peters qui viendra au 6x4, c'est un petit peu de la chanson, c'est une jeune femme qui a une voix un peu douce, un peu pop, et donc ça promet d'être aussi un beau concert de reprise. Ça va être un mois de mars bien chargé, donc ça commence par le concert de Ichon et Jade, qui est donc là un peu rap-chanson, et qui était programmé à la base en janvier, et qui est reporté au 5 mars. L'autre date du mois de janvier, qui est reportée au 12 mars, c'est la soirée plus électronique, donc c'est la soirée du festival Panorama, en fait, qui s'invite au 6x4, donc avec des artistes comme Irène Drezel, Mila Dietrich et Lazer Arafat, qui est lui un artiste plus en local. Pour le côté technique, les techniciens s'adaptent vraiment au concert, donc là-dessus, les techniciens vont vite reprendre la main, je me fais pas de soucis pour ça. Après, pour les bénévoles, en effet, ça fait un petit moment du coup qu'il n'y a pas eu de concert depuis décembre. Donc on va rebrancher les fûts, on va remettre tout ça en marche. On a prévu de se retrouver là prochainement avec les bénévoles pour un bon gros repas et puis pour refaire un petit peu une formation pour les nouveaux bénévoles et remettre la machine en route.
Les bénévoles qui sont 80 cette saison avec une équipe au complet. Pour les prochains concerts au mois de mars, il reste encore quelques places, mais qui partent très vite. Hein. En tout cas, vous pouvez réserver les dernières sur le site du 6x4, 6x4.com. Et on connaîtra très bientôt la programmation complète du Festival des Trois Éléphants. Ce sera normalement début mars.
Et on va passer à l'interview sur le Festival Univers Ciné de Nantes qui se délocalise à Château-Gontier. Mais avant, on va écouter How Long de Vampire Weekend.
Tough choice, don't make me laugh. My life's a joke, your life's a gas. You broke my heart at midnight mass. Now I'm the ghost of Christmas past. The only choice you gave to me is one I took reluctantly. Cause when we bled democracy, you always take immunity. How long do we sink to the bottom of the sea? How long, how long? How long? Do we sink and it's only you and me? How long, how long, how long, how long, how long, how long, how long? What's the point? Getting clean, you wear the same old dirty jeans. What's the point of being seen? Those eyes are cruel, those eyes are mean. What's the point of human beings? A sharpie face on tangerines. Why has it felt like Halloween since Christmas 2017? How long? Top wasn't supposed to be this hard. The house is on Mulholland Drive. The car's on Sunset Boulevard. The registration's here with me. Neither of us has the key. We can live down in the flats. The hills will fall eventually. How long till we sink to the bottom of the sea? How long, how long? How long till we sink? And it's only you and me. How long? 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 How long?
Vampire Weekend, How Long dans la JT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio. Et après la musique, place au cinéma avec le festival Universiné italien qui se délocalise à Château-Gontier. Ce festival qui se déroule à Nantes du 22 au 27 février. Et bien pour la première fois aussi à Château-Gontier, au cinéma Le Palace, sur l'impulsion de Ariane Imbleau, professeure d'italien dans les écoles de Château-Gontier, et de Joëlle Hanneau, la gérante du cinéma. Deux projections débats sont organisées, Mio Fratello ce vendredi à 20h30 et à Chiara demain soir à 20h30 autour de la mafia calabraise.
C'est aussi sur la corruption financière, la délinquance financière. Donc, quelque part, il y a une part d'humanité là-dedans. C'est remettre au plus juste la société. Donc, voilà, ça me va tout à fait. Et le deuxième film, sur l'inclusion, il est super intéressant. Sur la famille, la différence là, c'est le petit garçon, c'est un trisomique. Le regard qu'on a sur l'autre, donc, c'est vraiment un super sujet de société. Et je suis très heureuse de le passer. En plus, c'est un film inédit en France.
J'ai eu la chance de voir Mio Fratello l'année dernière, puisqu'il a obtenu le prix du jury. Et c'est vrai que c'est le premier long métrage de Stefano Cipani, oui. Et c'est vrai que bon, c'est un film qui est vraiment touchant, qui est tout public, hein, qui... C'est une famille de 5 personnes et les parents, 2 filles et un jeune garçon. Et il apprend la naissance, il va y avoir la naissance de son petit frère et il est décrit par les parents parce qu'ils ont appris bien sûr qu'il était trisomique. Donc ils lui apprennent la naissance du petit frère qui va être pour lui quelqu'un un être spécial. Donc lui le prend pour un super-héros. Donc, bon, après, il va se passer des choses. Les enfants grandissent. Donc, je ne peux pas raconter la suite. Mais c'est vraiment touchant, émouvant. Et même la musique est très... moi, je sais que ce film, alors, il a obtenu le prix du jury.
Il y a un message, un immense message d'amour, de tolérance. Il parle aussi de l'adolescence, la difficulté à se construire, à trouver son identité. Vraiment, le regard des autres, c'est-à-dire... l'importance du regard des autres et moi, je dirais l'amour en grand. Quoi.
C'est le fait d'entendre l'italien. Enfin, moi, je sais que pour moi, c'est vraiment super parce que sur cette ville de Château-Gontier, depuis 6 ans maintenant, j'essaye vraiment de faire la promotion de l'italien parce que c'est... Je vois sur les écoles, les enfants adorent ça. Bon, le regret qu'on a pour l'instant, j'espère que ça va changer, c'est que cette langue, elle n'est pas proposée au collège en deuxième langue. Alors que l'italien, je veux dire, c'est l'histoire de tout le monde. Hein. Ça représente tout, hein, toute notre culture. Le maire de Château-Gontier, monsieur Philippe Henry, fait en sorte avec le président du comité de jumelage, Guy Michel, on essaie de faire un jumelage avec une ville italienne. Donc c'est un de nos projets aussi. C'est pour ça que le festival, moi j'avais pensé au cinéma Le Palace, parce que c'était une bonne occasion d'avoir une autre vision de l'Italie, parce que le cinéma aussi, hein, c'est quand même important hein, en Italie. Et ce que je voulais dire pour Akihara, c'est aussi un film où on parle de la mafia, mais c'est la mafia calabraise. Donc ça c'est important parce que c'est aussi une mafia différente de la mafia sicilienne, dans le sens où les liens du sang sont importants. Et dans ce film, on parle aussi, c'est d'une adolescente qui va devoir aussi faire un choix, elle est en pleine construction et elle se rend compte de certaines choses et pour elle, il y a un dilemme qui se fait. Et je pense que ce film fait réfléchir, montre aussi une réalité, mais qui n'est pas montré comme d'habitude dans les films. C'est pas la même façon de parler de la mafia. Là, on est vraiment dans un univers où on est vraiment baigné dans cette ambiance. Je pense que c'est un film qui peut plaire beaucoup aux passionnés de l'Italie, parce que moi, le sujet de la mafia me passionne. Et on entend la sonorité de l'italien, et ça, c'est important. Hein. Donc, c'est le but aussi du festival italien.
On précise évidemment que tout est sous-titré en français. Le film Akira sera suivi d'un débat avec Fabrice Rizzoli qui va le découvrir, donc ce long métrage, le soir même, mais en revanche spécialiste du sujet.
Donc Fabrice Rizzoli, je suis docteur en sciences politiques sur les mafias italiennes et j'ai aussi fondé une association de lutte contre le crime organisé qui s'appelle CRIMALT, association. pour promouvoir l'information des citoyens et la participation des citoyens contre le crime organisé. Ce qui est révélateur aussi, c'est qu'il n'y a pas eu tant de films que ça sur la mafia calabraise, qu'il y a quelques téléfilms qui sont sortis sur une grande station de diffusion par Internet, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas de grands films, à part Léa, sur une personne qui a collaboré avec la justice et puis qui a été assassinée, et puis Les âmes noires. Donc ici, pour moi, la grande attente, c'est de voir un film sur la mafia calabraise et qui donnera effectivement une occasion de débattre et de parler des clichés, mais aussi de parler de la mafia.
Puisque vous parlez justement de cette spécificité de la mafia calabraise qui n'est pas la même que la mafia sicilienne ou peut-être la mafia même d'autres régions d'Italie, voire même d'autres pays.
Alors, les mafias sont toutes les mêmes, mais ça dépend ce qu'on met dans le mot mafia. Et puis, bien sûr, elles ont des différences. Bon, alors, les mafias en général, hein, pour moi, ce sont des organisations criminelles qui utilisent la violence, qui font de l'accumulation du capital, hein, donc illégalement, des trafics, mais qui les mettent dans l'économie légale, qui sont proches de la population, pas toute la population, mais une partie, on parle de consensus social, et bien sûr, qui cherchent la complicité des hommes politiques et des professions libérales et des entrepreneurs. Ça, c'est toutes les mafias. Quand on a ces critères-là, on peut en gros parler de mafia. Mais la différence, c'est que, par exemple, les mafias italiennes sont très bien étudiées. On parle souvent de mafia chinoise, mais en fait, personne n'y connaît rien. Je vais être sincère avec vous, il n'y a pas d'information. Donc la différence, c'est que j'ai pu faire une thèse sur les mafias italiennes parce qu'il y a des sources. Et à l'intérieur des mafias italiennes, il y a quelques spécificités. Pour moi, elles ne sont pas non plus les plus importantes. Mais dans la mafia calabraise, la spécificité, c'est qu'en gros, c'est une vraie organisation familiale au sens biologique du terme. En gros, pour faire partie du clan, il faut appartenir à la famille, alors soit être de même sang, soit se marier avec la fille du chef ou la sœur du chef, parce que par le biais des enfants que nous ferons avec cette femme, nos sangs seront mêlés et on aura le droit de faire partie de la mafia calabraise. Et puis, comme toujours, faut faire attention, il y a des exceptions. Mais en gros, c'est ce qui fait la grosse différence. Et une des différences, c'est que du coup, de lutter contre la mafia calabraise, c'est plus dur. Parce que, précisément avec les autres mafias, lorsqu'on arrive à faire sortir des mafieux du clan et qu'ils coopèrent avec la justice, les fameux repentis, terme impropre véhiculé par les journalistes, les mafieux qui sortent du système dénoncent leurs parrains, au sens clanique du terme, ou leurs collègues d'activité criminelle. En revanche, dans la mafia calabraise, lorsqu'on témoigne, on envoie son père, sa mère, son frère à la prison à vie. Donc, il y a moins de collaborateurs de justice dans la mafia calabraise qu'ailleurs.
Vous disiez justement que c'était la mafia italienne où il y avait le plus de recherches qui ont été faites là-dessus. Est-ce qu'il y a une explication historique ou qui explique justement que c'est vraiment on a beaucoup de sources précisément sur cette mafia italienne?
Alors, discussion de café du commerce, je dirais que l'Italie est un pays transparent. Où les choses se voient, la corruption se voit, la criminalité se voit, alors qu'en France, on va l'étouffer, on va la cacher. En France, il n'y a pas de corruption, puisque de toute façon, les procureurs ne sont pas indépendants. Donc, si une association anticorruption, depuis seulement 5 ans, ne porte pas plainte, en gros, c'est très compliqué de faire la lumière sur la corruption. C'est pas le cas de l'Italie, où depuis longtemps, les magistrats sont indépendants. Donc, on voit les choses. L'autre facteur, ça serait que l'Italie est une démocratie. Parce que c'est bien gentil, mais étudier la mafia en Chine, étudier la mafia en Russie, alors désolé, bon, allez, on va dire que c'est une moitié de démocratie, et l'Italie est largement imparfaite aussi, mais enfin voilà, vous avez des sources à profusion depuis des années, parce que, par exemple, quand je dis démocratie, vous avez des commissions parlementaires qui étudient le phénomène mafieux, et puis quand la commission parlementaire majoritaire, par exemple à l'époque de la démocratie chrétienne, une commission peu transparente, peu pugnace, notamment avec les complicités politiques, vous avez une commission parlementaire de la minorité, à l'époque du Parti communiste. Donc pour un chercheur, vous avez une commission parlementaire de la majorité, une commission parlementaire de la minorité. Donc ça donne énormément de sources. Il y a une tradition d'études des mafias, qui fait qu'il y a 30 livres qui sortent par an, le magistrat écrit son livre, le repenti écrit son livre, la femme du mafieux écrit son livre, les journalistes écrivent leur livre. Il y a énormément de sources de traditions démocratiques, culturelles. Et après, il se trouve que quand même on est en France et que l'Italie c'est quand même à côté, qu'on étudie plus les mafias italiennes, qu'il y a énormément de chercheurs italiens qui habitent la France et qui ont amené leur savoir sur ces mafias italiennes, et on va moins connaître les mafias nigérianes, les mafias américaines. Encore que les mafias américaines, je parle des États-Unis, on a le problème que pour les Américains, il n'y a de mafia qu'étrangère. Évidemment, eux ne connaissent pas ce phénomène-là. Je provoque volontairement. Alors, il y a la difficulté pour une magistrature, toujours, en gros, de s'attaquer à un grand délit qu'on appelle le blanchiment. Effectivement, lorsque les mafieux investissent leur argent illégal dans un hôtel, dans de l'immobilier, c'est difficile de le prouver. Alors, comme les Italiens sont très très forts au football, ils dribblent. Certains disent qu'ils trichent, moi je dis ils dribblent. Et par exemple, ils ont inventé une confiscation sans condamnation pénale du propriétaire. Ça serait vraiment dommage pour nos auditeurs qu'on entre dans le débat aussi technique. Mais ils ont contourné la difficulté du blanchiment et c'est les complices des mafieux qui doivent justifier l'origine légale de leurs biens au tribunal. Et c'est comme ça que l'Italie confisque des milliards d'avoirs, j'ai bien dit des milliards d'avoirs, aux mafieux. En revanche, ce que j'explique aussi, c'est que ce qui est encore plus difficile aujourd'hui, c'est peut-être d'expliquer d'un point de vue géopolitique, c'est ce que j'enseigne à Sciences Po Paris par exemple, que c'est le secteur légal qui est aussi très responsable de cette situation. Je m'explique. L'État italien fait sa part. Aujourd'hui, il y a 5 homicides par an en Sicile mafieux, 5 homicides mafieux. Hein. Il y a beaucoup plus de maris qui tuent leurs femmes en Sicile que de mafieux qui tuent d'autres mafieux. Parce que l'État italien est plus fort, confisque, met les mafieux en prison, redistribue les biens confisqués. En revanche, il y a beaucoup de corruption, beaucoup d'activités légales de la mafia, parce que les lois sont mal faites, parce qu'aujourd'hui, la prohibition des drogues, ça tient plus debout, et donc ça leur donne énormément d'activités, d'opportunités d'accumuler le capital. Si on prend un autre exemple, la contrebande de tabac, bien, ce sont les industriels légaux, les entreprises légales, les compagnies américaines, qui se débarrassent de leurs stocks, qu'ils les vendent à des courtiers, et qu'ils les revendent aux mafieux balkaniques, polonais, puis qu'ils les revendent aux mafieux italiens. Donc en fait, il faudrait aussi s'interroger sur le rôle de la sphère légale qui donne des opportunités à la mafia.
Oui, la limite, elle est aussi fixée par cette sphère légale pour savoir le champ qui reste finalement pour cette mafia.
Absolument. Faut vraiment s'interroger sur les complicités des professions libérales. Je veux dire, ça n'existe pas le mafieux puissant qui, par exemple, et ce sont des cas très concrets, qui obtient des prêts alors que des prêts à la banque, hein, des prêts officiels, alors que nous, on a beaucoup de mal à obtenir un prêt. Nous, alors, je parle pas des prêts immobiliers qui peuvent être assez accessibles, mais je parle des prêts quand on est un entrepreneur, hein, pour se lancer. Il faut s'interroger sur la complicité des banquiers, donc des géomètres, politiciens qui donnent des marchés publics. C'est eux qui ont la responsabilité avant tout de protéger les citoyens, parce que voilà, ils appartiennent à la sphère légale, on paye des impôts pour être protégés, et souvent c'est eux qui ne nous protègent pas de la mafia.
Justement, vous parlez de tout ce qui est légalisation, ça joue aussi s'il y a des différences entre les pays, s'il y a des pays qui sont plus, avec des guillemets, permissifs que d'autres, ça veut dire que les espaces y s'ouvrent dans d'autres pays?
Oui, alors, oui, on parle de dumping juridique, c'est-à-dire que les mafieux font leurs courses parfois dans les pays où le droit les arrange. Effectivement, le manque d'harmonisation de certaines lois, etc. Je pense à l'Allemagne qui n'a pas de loi anti-blanchiment. Je pense à la facilité de blanchir l'argent, notamment dans l'immobilier en France. Je pense de la facilité de blanchir l'argent dans l'immobilier, dans le tourisme en Espagne. Ce qui font que, par exemple, les mafieux italiens se déportent. Alors, c'est pas vrai dans le trafic de drogue, parce qu'en gros, la drogue est interdite partout. Et même aux Pays-Bas, hein, c'est une légende, c'est même pas une loi, c'est juste des coffee shops qui sont permis par la coutume. Et c'est pas ça qui va vraiment arranger les mafieux.
Est-ce que justement par vos recherches, alors évidemment il n'y a pas une solution, ça c'est évident, qu'est-ce qui se dessine comme piste pour justement limiter l'influence de ces mafias?
Alors on n'en est plus aux pistes. Pour moi, on en est que l'Italie est le pays de l'antimafia, qui a démontré par le biais d'un délit d'association mafieuse, d'une confiscation antimafia, du système de collaborateurs de justice, d'une magistrature indépendante, a démontré qu'on pouvait réduire le pouvoir de la mafia, et notamment son pouvoir de violence, et pour moi c'est important. Moi j'estime que quand on est mort, on peut plus faire autre chose. Donc la mafia tue moins, et ça c'est bien, c'est grâce à l'État. On n'en est plus, à mon avis, hein, aux pistes, puisque depuis 1996, on redistribue les biens confisqués à la société civile, et que ça permet quelque chose de fantastique, le changement de mentalité. Parce que la mafia, c'est un problème culturel, les lois sont faites par des députés, la corruption, c'est fait par des êtres humains qui pensent que la mafia, c'est bien ou qu'on ne peut pas lutter efficacement contre. Donc aujourd'hui, sur certains territoires que j'ai visités, que j'ai étudiés encore en ce moment dans un projet de recherche financé par l'Union européenne, nous étudions comment, quand on met à disposition un bien qu'on a confisqué à un mafieux, quand on le donne à une association, on change tout l'écosystème humain, sociétal, social autour de ce bien. Comment à Casal di Principe, où on tuait père et mère avant, concernant la mafia, aujourd'hui il n'y a plus d'homicide, et aujourd'hui sur 130 biens, il y en a 60 qui sont mis à disposition de la société civile. Aujourd'hui, et depuis longtemps maintenant, des parents accompagnent leur enfant handicapé dont l'association va s'occuper d'eux dans un bien confisqué. Et ça fait reculer la mafia. Et Crimalt a bossé pendant 12 ans, a fait un plaidoyer pour qu'enfin on ait une loi idoine, identique en France, pas tout à fait identique, elle est beaucoup plus restrictive, mais on va enfin tenter de changer les mentalités dans les quartiers populaires de Marseille, dans ce premier bien qui est mis à disposition en Guadeloupe aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de concret qui mériterait encore plus de publicité à mon sens.
Et si vous avez d'autres questions à poser à Fabrice Rizzoli, et j'imagine que c'est le cas, vous pouvez réserver vos places pour demain soir sur le site du cinéma Le Palace. Tarif 5€ par place, tout comme pour le ciné-débat de vendredi avec le film Mio Fratello.
Et dans quelques instants, la première chronique de la Ligue des droits de l'homme 53, mais avant, petite pause en musique avec Polaroid de Kabadzi.
Votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Et moi ce jour-là, je serai là avec mon Polaroid. Et hop, dans la boîte, ça se passe entre deux gares. On se quitte au bout d'une heure, c'est absolument sans risque. Alors à combien vous l'évaluez votre chagrin? L'impression de ressembler à un lavabo qui se vide. L'impression de jouer des petits rôles, des rôles de mecs qui subissent. Jamais l'histoire bascule, jamais, pour l'instant. Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Peut-être pas demain, mais un jour. Faudra bien qu'il revienne un jour. Que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Parce qu'il y a des moments c'est beau, vous verrez, c'est pas toujours la merde. Des fois c'est beau, la vie est mal foutue, je vous l'accorde. Je sais pas si c'est de l'or, je sais pas si c'est du diamant, je suis pas géologue. Mais enfin de temps en temps, à force de patauger dans le caca, on découvre une pépite. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on foute pas notre vie en l'air et qu'on nous fasse des petits sourires. Faut pas avoir peur, on a tous peur, j'ai peur. Mais est-ce que c'est une raison pour mourir? Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Peut-être pas demain, mais un jour. Faudra bien qu'il revienne un jour. Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne un jour.
Vous venez d'écouter Cavazzi Polaroid dans l'agité du local sur l'autre radio. Et puis place à une première et on est très content de les accueillir dans cette émission. La section mayonnaise de la Ligue des droits de l'homme nous propose sa première chronique qu'on écoute tout de suite. Bonjour Alain, alors on est là pour la première chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne et peut-être d'abord repréciser la Ligue des droits de l'homme, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien la Ligue des droits de l'homme agit pour le respect des droits et des libertés en tout domaine. C'est sa raison d'être que de veiller en permanence aux droits humains, et cela depuis sa création en 1898.
Et alors aujourd'hui, qu'en est-il de ces droits humains ?
Eh bien, il faut veiller et agir en permanence pour qu'ils soient respectés. Nous vivons dans une société qui a beaucoup changé et qui va encore beaucoup changer. Mais ces changements vont-ils toujours dans le bon sens ? C'est-à-dire vont-ils vers une société plus juste, plus humaine, plus démocratique. Car se préoccuper des droits humains, c'est agir pour la justice, c'est agir pour les droits collectifs et individuels, pour des lois qui organisent la société de façon plus humaine, pour que la démocratie soit vivante et ne soit pas écrasée par des intérêts d'argent ou des intérêts partisans.
Vous auriez un exemple d'actualité sur ces craintes de la Ligue des droits de l'homme quant aux droits et à la démocratie ?
Oui, alors sur le droit, si on prend comme référence la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est notre guide pour nous à la Ligue des droits de l'homme, alors nous disons que l'accès égal de tous aux soins à un médecin, le droit de pouvoir se soigner, que l'on habite dans une grande ville ou qu'on soit en Mayenne, ce droit doit être égal pour tous. Et nous constatons, nous, LDH, avec beaucoup d'autres citoyens et associations, que cette égalité est brisée pour de nombreux Mayennais. Donc une question d'égalité d'accès et de droit d'accès. Sur la démocratie, nous sommes, nous, Ligue des droits de l'homme, avec beaucoup d'autres, très inquiets de la concentration et de l'accaparement des médias par des intérêts privés. Et il me plaît de le dire aujourd'hui à l'autre radio. Un groupe privé est en train de mettre la main sur des chaînes de télé, sur des journaux, sur des maisons d'édition. Ces chaînes de télé véhiculent des contenus qui ne sont pas neutres et objectifs, loin de là. Elles diffusent des discours haineux, racistes, homophobes, sexistes. Plus encore, elles banalisent des thèses complotistes, anti-scientifiques. Et ça, c'est pas dans l'Amérique de Trump. C'est bien chez nous, ici, en France, et ça porte les mêmes dangers de dérives violentes, de dérives racistes. C'est extrêmement préoccupant pour notre démocratie, pour la paix publique, que des médias diffusent ainsi des idées de haine. Cela ne peut amener que du mal.
Et alors, on fait quoi ?
Eh oui, on fait quoi ? C'est pour ça que nous sommes, nous, adhérents à la Ligue des droits de l'homme. C'est parce que nous constatons ces dangers et que nous ne pouvons pas rester sur le côté à regarder ce qui se passe. Il faut agir. Et pour cela, il faut se grouper, il faut discuter, il faut s'informer, il faut faire ensemble. Par exemple, contre la mainmise des médias par des puissances d'argent, qui laisse se diffuser des idées dangereuses pour notre vivre ensemble, un collectif d'associations et de personnalités s'est créé. Il s'agit de faire monter une riposte et une exigence de démocratie. Mais nous en reparlerons.
Et oui, on en reparlera dans 15 jours, lors d'une prochaine chronique. Puisque, donc ça y est, ça va être le rythme qui est pris pour cette chronique de la section mayonnaise de la Ligue des droits de l'homme. Elle sera à retrouver un lundi sur deux dans cette émission à peu près à 7h06. C'est le début de notre feuilleton cette semaine auprès des participants de Quartier en scène, un programme proposé par le Théâtre de Laval pour les ados de 12 à 16 ans. Depuis le début de la saison, ils se retrouvent une fois par mois pour découvrir le théâtre autrement, par une visite des coulisses, des critiques sur un spectacle ou encore la rencontre avec des artistes. Et c'est d'ailleurs le temps fort de ce parcours, un stage avec la compagnie La Belle Brute qui a eu lieu tous les après-midi de la semaine dernière auprès de 7 participants. Premier épisode avec l'un des artistes animateurs de ce stage qui explique leur travail.
Bon, je m'appelle Harry Holtzman, je fais partie du collectif La Belle Brute, on est basé à Housset. cette semaine avec Babette, qui est l'autre co-directrice, Babette Masson. Nous menons un atelier avec un groupe de jeunes personnes qui ont fait un parcours dans le théâtre Laval, un parcours qui était de voir beaucoup de spectacles ensemble, de faire une parole vivante sur ces spectacles avec un auteur qui vient de Saint-Nazaire, Joël. Après, il devait avoir un groupe de jeunes avec nous aussi de la service jeunesse de Laval, mais ils ont été empêchés de venir et ça, c'était très triste au début de la semaine. Ça a passé très vite parce que c'est que 2 heures par jour et donc c'est pas beaucoup de temps en effet. Nous avons essayé de transmettre un aspect de notre métier qui est un travail qu'on mène avec des objets à partir des objets marionnettisés. Donc on a commencé la semaine avec des objets très anthropomorphiques, des marionnettes qu'on manipule différemment avec différentes techniques. Et puis après, on a commencé à travailler avec des matières qu'on anime. Là, on est dans les monstres avec un pâte à pain qu'on fabrique nous-mêmes. Et donc, c'est des monstres qui sont toujours en évolution, toujours en train de changer parce que le pâte à pain, c'est toujours une sorte de matière vivante. Là, notre collègue Laurent, le troisième co-directeur Laurent Frognier, il est en ce moment au Théâtre de la Marionnette à Paris où il joue son spectacle Ici ou pas là, qui est le troisième d'un triptyque sur les peurs enfantins. Et là, il parlait de la peur de ne pas trouver sa place. Et donc, l'objet central, c'est des rideaux. Et donc, comment ces rideaux sont autant... Ça raconte à la fois un cabaret, mais c'est aussi le fait de plonger plusieurs rideaux qui plongent à l'intérieur du personnage et l'intérieur du théâtre. Donc, il y a plusieurs feuilles de rideau qui s'ouvrent, et donc on plonge de plus en plus à l'intérieur de son problématique et de sa quête de trouver sa place. Je crois pour la plupart, c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup de pratiques théâtrales, et donc j'ai commencé avec les marionnettes, mais c'est-à-dire le deuxième jour, on a vu vraiment qu'il fallait commencer avec des bases, de rentrer sur scène sans objet et d'être présent, d'exprimer des émotions. Donc, on a un peu fait marche arrière le deuxième jour avec Babette. Et puis, après, on a poursuivi avec la matière de la pâte à pain.
Et on retrouvera la suite au prochain épisode demain autour de ce fameux travail autour de la pâte à pain et de ce que ça permet avec ces adolescents qui suivent ce parcours quartier en scène au théâtre de Laval. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour aujourd'hui, lundi 21 février. Salut Andy, à demain.
Salut Marie, à demain, oui.
Et oui, on se retrouve demain à 12h15, mais avant ça, bien sûr, restez avec nous puisque ce soir à 19h, vous retrouvez Solénoïde, ce sera suivi à 20h de la discothèque de Morgane ce soir. Nous, on se retrouve demain à 12h15, je vous souhaite une très belle journée.